Le couvre-feu de 22h à 5h du matin, prolongé jusqu'au 7 octobre. Les mesures administratives concernant la vente d'alcool sont légèrement assouplies. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-parole des loyalistes, était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il s'est notamment exprimé sur la présentation du plan quinquennal à Paris à laquelle les loyalistes ne se sont pas associés. Nicolas Metzdorf sensibilise à Paris sur le dossier calédonien. Le député de la première circonscription a demandé le maintien des effectifs des forces de l'ordre sur le territoire. Le réseau Tanéo va reprendre du service mardi prochain avec d'importants changements. Seules 12 lignes sur les 30 qui existaient avant les émeutes seront assurées et le ticket sera vendu au tarif unique de 500 francs. Un programme festif plutôt léger ce week-end. Côté histoire, la commune de Bouraille commémore demain l'arrivée des premiers bagnards en Calédonie. Le padel, ce sport à la croisée du tennis et du squash, va faire son entrée à Dambéa. Deux pistes vont voir le jour début 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le couvre-feu à nouveau prolongé jusqu'au mois d'octobre. Les autres mesures de police administrative sont également maintenues, Léo Fichou.
Le couvre-feu est maintenu de 22h à 5h du matin jusqu'au 7 octobre prochain. La vente d'alcool est toujours limitée et restreinte. Il est possible de consommer sur place dans les bars et restaurants, mais la vente à emporter est interdite. Chez les cavistes, la vente est autorisée du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à midi. On signalera que la limite est passée à 4 litres par jour et par personne pour les boissons type bière et cidre. Pas de changement pour le reste. 2 litres pour les alcools compris entre 9 et 22 degrés comme par exemple le vin. Pour les alcools forts, la limite reste d'un litre par personne et par jour. Le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions sont interdits jusqu'au 7 octobre. Même chose pour la vente au détail et le transport de carburant. Enfin, les rassemblements, défilés et cortèges, à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives, restent également interdite sur le Grand Nouméa jusqu'au 7 octobre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous rassuré par l'arrivée de la Niña qui devrait amener de la pluie dans les prochaines semaines après des mois de sécheresse? Si cela vous rassure, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le couvre-feu qui est en place depuis la mi-mai doit encore être prolongé au-delà du mois de septembre. Ils sont 12% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, la circulation va être perturbée sur la RT1 à la fois à partir de ce soir, tout à l'heure à 18h, en raison d'une reconstitution par la gendarmerie d'un accident survenu sur la commune. Des déviations vont être mises en place au niveau de la sortie nord du village. Des gendarmes seront aussi sur place pour indiquer les itinéraires. Cette bonne nouvelle pour les automobilistes, le prix des carburants est en baisse. À partir du 1er octobre, l'essence passera à 165,8 francs le litre, soit une baisse de 3,8 francs par rapport au mois dernier. Le litre de gasoil sera quant à lui affiché dans les stations-service à 144,6 francs, soit moins 5,50 francs. Et cette information pratique, vous avez jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire lundi, pour payer la compte provisionnelle du deuxième tiers des impôts sur votre revenu 2023. Initialement prévu au 15 juillet, le paiement a été repoussé en raison des émeutes de mai dernier. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-parole des loyalistes, était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a d'abord été interrogé sur le refus des loyalistes de s'associer à la délégation interinstitutionnelle qui est actuellement à Paris pour présenter aux plus hautes autorités de l'État le plan quinquennal adopté par le Congrès. Les loyalistes estiment qu'il faut parler d'une seule voix à Paris et ils regrettent que le gouvernement ne soit pas associé à cette démarche, explique Gilles Brial.
Au Congrès, nous avons voté ce plan de redressement de l'économie, de relance, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie qui fait appel à l'aide de l'État sur 5 ans. 500 milliards accessoirement de francs pacifiques, donc d'aide de l'État, mais qui n'a pas été négocié avec l'État, qui a juste pour l'instant été décidé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a décidé de dire à l'État que ce serait bien qu'il nous donne 500 milliards. Ça a été voté par le Congrès, mais en parallèle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a travaillé sur un plan, le S2R, qui est important puisque lui aussi vise à relancer l'économie calédonienne. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces deux plans se rejoignent. Ce qui est important aujourd'hui, vu l'état économique, social, catastrophique de la Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir qu'une seule voix à Paris.
Gilles Brial qui ajoute que les loyalistes ne comprennent pas l'intérêt d'aller à Paris avec l'UC qui a créé la CCAT alors que le Palika est lui resté à Nouméa. De toute façon, dit-il, la Calédonie a besoin de l'aide de l'État.
Paradoxalement, c'est que les actes terroristes qui ont été menés par des indépendantistes extrémistes ont fait qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été aussi dépendante de la France. On a besoin tous les jours de l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie et on a besoin de plus en plus des moyens financiers de l'État en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas les collectivités calédoniennes, nous n'avons pas les sociétés calédoniennes ni les contribuables calédoniens les moyens de redresser notre économie, les moyens ne serait-ce que de survivre aujourd'hui. On a besoin de l'État et c'est pour ça que je dis que cette aide de l'État, il est massif, il devra être massif, il doit être rapide, mais dans un contexte budgétaire national très difficile.
Et quand on l'interroge sur la violence insurrectionnelle qui a frappé le territoire il y a plus de 4 mois, Gilles Brial n'hésite pas à parler d'actes de terrorisme.
Les choses sont claires pour moi. Quand vous avez une bande de personnes qui vont brûler et piller l'économie du territoire, quand ils tirent sur des gendarmes à balles réelles, quand ils vous jettent dessus des cailloux, des cocktails Molotov, pour moi c'est du terrorisme. Il ne faut pas banaliser ces actes-là. Nous, les Calédoniens, on a une capacité de résilience qui est phénoménale. Et c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé et la violence de ces actes-là. Pour moi, c'est des actes terroristes avec une bonne pointe de racisme en plus, parce que c'était quand même régulièrement accompagné de mots pour nous inciter à partir d'ici comme si on n'était pas ici chez nous.
Des émeutes qui ont des conséquences énormes pour la province sud, souligne son deuxième vice-président, sans parler des plus de 3,5 milliards d'impact sur les bâtiments et les routes.
On a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on a une perte de la qualité du service à la population qui est liée à tout ce qui a été cassé, pillé, brûlé dans les équipements publics, que ce soit des équipements d'accueil de nos directions qui recevaient du personnel ou des équipements sportifs ou des équipements médicaux ou d'accueil social. Donc on a moins de services et on a en parallèle, lié à la catastrophe économique, moins de recettes fiscales. Et donc du coup, on est obligé d'arrêter complètement des pans entiers des politiques provinciales. Des choses qu'on a mis des années à construire, en quelques semaines, on a dû les arrêter, et dans l'ensemble des secteurs.
Gilles Brial qui souligne que l'on va mettre des années à retrouver le niveau d'avant le 13 mai. Il est également revenu sur l'important dispositif de force de l'ordre qui a permis que le 24 septembre se déroule dans le calme. Dans ce contexte, il a été interrogé sur le maintien du dispositif des voisins vigilants.
L'objectif, c'est d'avoir un retour progressif à la vie normale. Mais ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne s'est mobilisé des nuits entières pour se faire plaisir. On l'a fait pour protéger nos maisons, pour protéger nos familles. Donc là où il y a encore des tensions, on va lever progressivement nos barricades. L'objectif, c'est de le faire dans les jours qui viennent, mais maintenir des dispositifs de vigilance. Et on a demandé en contrepartie à l'État qu'il accentue sa présence sur le terrain. Et ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir se remobiliser si on sent qu'il y a une volonté à nouveau de débattre pour qu'on puisse reprotéger nos quartiers. Encore une fois, heureusement que les Calédoniens se sont mobilisés. Moi, je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette mobilisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait eu des affrontements très violents avec beaucoup plus de morts s'il n'y avait pas eu cette mobilisation et cette vigilance des premiers jours, là où les forces de l'ordre ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
Le deuxième vice-président de la province sud se réjouit par ailleurs du changement de présidence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il estime que Rokoua Mitan ne pouvait pas rester en place.
Ça fait des années qu'il préside le Congrès, mais on a eu le 13 mai et on a eu certains élus indépendantistes qui ont été dans l'incapacité de condamner ce qui s'est passé, de reconnaître que ce sont des actes terroristes, que rien ne justifie ce qui s'est passé au niveau de destruction en Nouvelle-Calédonie et au niveau des pertes de vie humaine. Le président du Congrès, c'est la première institution de Nouvelle-Calédonie. Il représente les Calédoniens à l'extérieur. On ne pouvait pas laisser Rokoua Mitan représenter les Calédoniens alors que les Calédoniens étaient en souffrance et qu'il n'était pas capable de le reconnaître. Donc il fallait qu'on fasse tout pour ça.
Une interview de Gilles Brial à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il faut sensibiliser les principaux responsables politiques nationaux à la situation dramatique de la Nouvelle-Calédonie, une situation de crise créée par les violences insurrectionnelles qui ont débuté en mai dernier. À ce titre, le député Nicolas Metzdorf multiplie les rencontres avec les nouveaux ministres à quelques jours du discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Hier, le député de la première circonscription a notamment rencontré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
À Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, les messages ont été clairs. C'était 1. Le maintien des effectifs des forces de l'ordre sur le territoire tant qu'il n'y a pas une solution politique de trouver. Parce que ce n'est pas parce que le 24 septembre s'est bien passé que l'ordre est rétabli et que les Calédoniens sont en sécurité. Deuxième message, un soutien qu'il faut affirmer au haut commissaire sur place, notamment sur sa politique à Saint-Louis. parce que le haut-commissaire a décidé d'être ferme et d'aller chercher tous les délinquants à Saint-Louis. J'ai dit à Monsieur le ministre qu'il fallait soutenir le haut-commissaire sur place. Et enfin, je lui ai demandé, en troisième point, d'aller visiter les familles des forces de l'ordre blessées en France, et notamment les policiers calédoniens qui ont été blessés lors des émeutes, d'aller leur rendre visite à l'hôpital.
Nicolas Metzdorf a ensuite rencontré le nouveau patron de Bercy, Antoine Armand. Lors de cet entretien avec le ministre de l'Économie, le député de la première circonscription l'a sensibilisé à nouveau à l'urgence de la situation en Nouvelle-Calédonie. Le syndicat mixte des transports urbains annonce la reprise du réseau Tanéo le 1er octobre prochain. Depuis 4 mois, les bus desservant Nouméa et son agglomération ne roulaient plus. Il y a 2 semaines, le GE Carouya Bus avait pris la décision unilatérale de reprendre du service. Mardi, ce sera une reprise concertée du trafic qui va s'opérer, mais avec plusieurs changements conséquents, Charlotte Coulson.
Avec en premier lieu une hausse tarifaire assez importante. Le titre de transport coûtera désormais 500 francs. La raison, une perte de recettes conséquente qui va de pair avec les difficultés de financement que rencontrent les services publics. Leur subvention contribue initialement à 70% du fonctionnement du réseau de transport. Il reste donc 30% à l'usager. Seulement voilà, avec une pause de près de 4 mois et une baisse importante du taux de fréquentation depuis la reprise, les rentrées d'argent ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Cette semaine encore, les recettes du GIE Carouya Bus s'élevaient en moyenne à 1 million d'euros par jour, contre 4 millions avant la crise causée par les émeutes. La hausse du tarif vise donc à réajuster la part de l'usager dans le prix du ticket. On écoute les précisions de Hugues Georgelin, directeur adjoint du SMTU.
L'augmentation de la gamme tarifaire va nous amener à un seul et unique tarif, quel que soit le nombre de zones, quel que soit le trajet, de 500 francs. Donc ça fait effectivement une augmentation conséquente. Pour la compenser, il a été proposé pour les utilisateurs du pass d'avoir 3 heures de correspondance gratuite à partir de la première validation, ce qui vous permet de faire des allers-retours, clairement, hein, de chez vous. Cette augmentation qui n'est pas faite gaieté de cœur, hein, clairement, mais qui concourt là aussi à sauver le service public de manière à certes faire contribuer un petit peu plus l'usager, lui faire payer une part un peu plus juste du service de transport qui auparavant était de 30%, là on l'étend plus vers 50%. Ça veut dire qu'il y a quand même 50% du tarif qui est quand même encore financé aujourd'hui ou essayer d'être financé afin de maintenir ce service public.
Un premier changement qui concerne donc les prix et un second sur les secteurs desservis. Il y a 2 semaines à peu près, le délégataire GIE Carouya avait déjà repris l'entièreté de ses lignes, soit 15, sans l'aval du SMTU. Malgré ce désaccord, les discussions se sont poursuivies entre le syndicat mixte des transports urbains et les deux délégataires Carouya et Car Sud. Dès mardi, ce sont donc 12 lignes sur 30 qui reprendront, comme l'explique Hugues Georgelin.
Avec le GIE, on a toujours eu des discussions. Ça n'a jamais été rompu, même s'il y a pu y avoir des petites tensions, notamment par presse interposée. Ils ont bien compris que les 15 lignes qu'ils exploitaient aujourd'hui, base du réseau d'avant, ne sont plus finançables et ne correspondent plus tout à fait à une forme de réalité. On a essayé de pouvoir desservir l'agglomération au mieux. Mais on ne pourra plus rentrer sur une desserte fine de certains quartiers. Je prends par exemple Rivière-Salée. On envisage de traverser le quartier, mais on ne pourra pas effectuer la desserte rue par rue comme il y avait auparavant. L'idée, c'est vraiment d'utiliser au maximum les grands axes qui sont, eux, sécurisés. Et derrière, bah oui, la contrainte, c'est que le client devra aller au bus, contrairement à auparavant où le bus essayait d'arriver au plus près de chez lui.
12 lignes qui circuleront donc dès mardi, 6 desservies par le GIE Carouya et 6 par Car Sud. Avec une nouveauté, une ligne circulera au Mont d'Or Sud dès réception des bus.
Ce sera une ligne opérée par Car Sud et ils sont en train d'effectuer un transbordement, c'est-à-dire d'envoyer 2 véhicules par barge de l'autre côté du verrou pour pouvoir effectuer le trajet entre Collège de Ploum et La Coulée, afin de desservir toute cette portion. Dans notre malheur, effectivement, il y a une partie de leur effectif qui habite le Mont d'Or Sud et qui sont tout à fait disposés à reprendre leur activité de ce côté-là. On aimerait que ce soit au 1er octobre. Je sais qu'il y a quelques petits soucis techniques de transfert du véhicule par barge, mais c'est en cours. Alors, ce sera peut-être pas le 1er octobre, peut-être le 2, le 3, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prévu. Tout est fait pour que ce soit mis en place au plus tôt.
Et le réseau Tanéo reprendra donc ce mardi 1er octobre. Quant à l'achat des titres de transport, il pourra toujours se faire dans les bus ou dans les magasins dépositaires. La liste détaillée est disponible sur le site taneo.nc. Et si 2/3 des bornes automatiques ont été détruites pendant les émeutes, certaines sont toujours opérationnelles et elles vous permettront de recharger vos passes.
18h, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On parlera d'abord de cette opération de dépollution grandeur nature menée par le Dentre Casto. C'était à Lifou ce matin. A tout de suite.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les Mills et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Le Dentrecasteaux se trouvait ce matin en baie de Santal à Lifou pour la simulation d'une opération de dépollution dans le cadre d'un plan Orsay, qui était notamment présent le haut commissaire, le commandant de la zone maritime, le président des îles Loyauté Jacques Lallier, une classe de défense du lycée de Lifou. On écoute le commissaire en chef Sophie Cabin du bureau Action de l'État en mer de la zone Nouvelle-Calédonie.
Tous étaient venus assister à une présentation du dispositif ORSEC maritime, c'est-à-dire organisation de sécurité civile pour répondre à des crises, et donc là spécifiquement en mer. Et donc la délégation a rejoint le Dentrecasteaux pour assister en particulier au déploiement d'un filet anti-pollution. Donc cette démonstration permettait de montrer comment est-ce qu'on gère une pollution en mer. Et elle a permis à tous les acteurs étatiques et locaux de se rencontrer autour d'un sujet maritime et du sujet de la préservation de l'environnement à travers la lutte anti-pollution. Et la présence de lycéens a permis également de présenter les métiers de la mer et de la marine à un public jeune.
Le Dentrecasteaux est un bâtiment d'assistance outre-mer. Il peut notamment embarquer du matériel de lutte contre les pollutions, barrages, filets et systèmes de récupération de polluants en mer appelés les écrémeurs. Matinée porte ouverte demain au CNAM, un événement organisé un samedi par mois et initié samedi 31 août dernier dans les locaux de l'ACEST CNAM. Une trentaine de personnes y avaient participé. L'occasion de rencontrer un conseiller pour une reconversion, une réorientation ou encore une validation d'expérience. Les précisions d'Amanda Bao, directrice adjointe de l'ACEST CNAM.
En accueil, toutes les personnes qui cherchent à se former, que ça soit dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution de carrière, on accueille les personnes pour pouvoir les renseigner ou les accompagner dans leur réflexion de formation. C'est un peu dans l'air du temps, hein, compte tenu du contexte. On reçoit quand même pas mal de personnes qui se mettent à réfléchir. Donc, ils sont pas, on va dire, dans leur démarche, dans leur réflexion, sont pas encore aboutis, mais ils prennent des informations pour regarder qu'est-ce qui est possible ici, qu'est-ce qui correspond éventuellement à ce qu'ils aimeraient faire, parce que pour beaucoup, le « qu'est-ce que je vais faire après » ou « qu'est-ce qui va se passer pour moi après », c'est pas encore flou. Il y a des, ben, on est comme beaucoup, hein, on est en attente aussi de savoir comment 2025 va se passer. On a quand même aussi, hein, je veux pas vous cacher, pas mal de personnes des industries minières et de la métallurgie locale qui viennent aussi, au vu de ce qui se passe dans le secteur du nickel, qui viennent aussi un peu se renseigner sur qu'est-ce qui est possible pour eux. Donc on a beaucoup de personnes en réflexion.
Le CNAM dit, c'est de 8h à midi demain dans les locaux de l'ACEST CNAM. C'est au 30 rue Georges Clémenceau. Un agenda festif relativement léger pour ce week-end. On note toutefois quelques sorties pour approfondir ses connaissances historiques. À commencer à Bouraï, demain la commune commémore l'arrivée des premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie, Charlotte.
Oui, une commémoration qui se déroulera toute la matinée au cinéma Paul Dupré et au Colisée. À 8h30 aura lieu une inauguration d'une fresque du navire L'Iphigénie. Suivra à 10h la projection d'un film et d'une causerie animée par l'historien Louis-José Barbançon. Les précisions de Catherine Daveur, directrice de l'animation et de la culture pour la ville de Bouraï.
Eh bien, en 1864, en fait, on a le premier navire qui s'appelle l'Iphigénie, qui transporte donc les premiers bagnards qui arrivent en Calédonie. Donc à Bouraï, on tenait à fêter ce 250e anniversaire de l'arrivée des premiers bagnards. Et au cinéma Polka Dupré, on a entamé une série de fresques autour des navires, après donc le navire La Monique l'an passé. Là, en 2024, on a fait une fresque sur l'Iphigénie, qui a été créé par l'artiste Guy Nguyen. C'est gratuit, venez nous rencontrer, venez échanger, partager, découvrir. C'est un moment important pour nous. J'ai souligné que la deuxième fresque autour des navires qu'on crée au cinéma Gouraï, on va poursuivre en fait avec un parcours culturel et patrimonial autour des navires pour développer après une animation culturelle pour les scolaires.
L'exposition Descendants de l'Iphigénie est également à découvrir au Colisée de Bourail jusqu'à demain de 9h à midi.
À Nouméa, il vous sera possible demain de participer à une visite guidée au musée de la Seconde Guerre mondiale.
Situé au centre-ville, ce musée propose aux visiteurs plusieurs expositions sur la période de la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle a été vécue par les Calédoniens. La visite guidée se déroulera de 10h30 à 12h et sera suivie d'une activité ludique par le biais de tablettes à faire en solo ou en groupe.
La médiathèque de Dimbéa propose un spectacle demain matin à l'occasion de son traditionnel rendez-vous du samedi.
Petits et grands pourront assister à l'animation Contes et Histoires à 10h avec le spectacle Par tous les sens de la compagnie Die Extérieure Compagnie. L'après-midi, un éveil à l'art est organisé pour les tout-petits.
Ce dimanche sera placé sous le signe des marchés, Charlotte. Nombreuses sont les communes à en organiser.
Oui, le Mont d'Or proposera un marché broussard de 6h à 12h. Au centre culturel Chibaou, ce sera le marché des femmes rurales de 8h à midi. Et enfin, après le Vert de Bancoul le mois dernier, le marché de Mamie propose sa troisième fête du jardin de l'année. Ça se passe de 7h à 12h à Farino. Des pépiniéristes et particuliers proposeront plantes vertes, arbres fruitiers et divers plants de légumes. Seront également présents les traditionnels stands de marché de Mamie avec tous les produits locaux.
Merci Charlotte Coulson. Et puis à noter qu'à l'occasion de la Saint-Michel, le saint patron des parachutistes, une messe sera célébrée demain à la chapelle Sainte-Thérèse au Vallon d'Or. Il est 18h07. Nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer le sport et puis le programme sportif du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. On se retrouve après une page de pub.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, on commence avec les sports sur le territoire avec un mot de padel très à la mode, notamment ici en Calédonie. Ce sport à la croisée du tennis et du squash débarque à Dimbéa avec deux pistes qui vont d'ici quelques mois voir le jour, Léo Fichou.
Oui, le tennis club d'Auteuil a signé ce matin une convention avec la commune de Dimbéa et la Société Générale pour la construction de deux pistes de padel. Les deux premières sur la commune, un projet estimé à 28 millions de francs, financé à 26% par l'Agence Nationale du Sport, à 24% par la mairie de Dimbéa et à 6,5% par la FFT. Le club sort de sa poche près de 4 millions de francs. Un emprunt à hauteur de 8,5 millions de francs a également été contracté à la Société Générale. Un projet qui voit enfin le jour. C'est une satisfaction pour Philippe Lizarrague, président du tennis club d'Auteuil.
Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur le projet parce que on voit les structures se développer, surtout dans le sud de Nouméa, et on s'est dit pourquoi pas faire bénéficier les gens qui habitent dans le nord de l'agglomération de deux pistes de paddle, et donc on s'est lancé le défi de réaliser ces deux pistes et on aboutit déjà avec la signature de ce partenariat, et oui, bien sûr, c'est une joie immense.
11 pistes de padel sont déjà accessibles sur Nouméa, 2 à la Ligue de tennis, 3 au Receiving, 2 à l'Olympique et au Mont-Coffin, il y en a 4, mais aucune dans le nord du Grand Nouméa. Johan Lecourieux, maire de Dimbéa, rappelle donc l'importance de proposer ces infrastructures dans sa commune.
Oui, c'est incontournable et en plus c'est très complémentaire entre les deux pratiques du tennis et du padel. Donc on s'aperçoit qu'on avait une centaine d'adhérents sur l'association du tennis club d'Auteuil et beaucoup d'entre eux allaient pratiquer sur les pistes de padel sur Nouméa. Et donc là, avec ces deux premières pistes à Dimbéa, on va pouvoir les conserver, voire même attirer peut-être d'autres adhérents pour le club. Et c'est vraiment le souhait de la mutualisation de ces deux pratiques.
Les deux pistes de padel au tennis club d'Auteuil devraient voir le jour d'ici 3 à 4 mois pour la rentrée prochaine. Ce sera donc en début d'année 2025.
Et on ouvre maintenant notre agenda sportif du week-end avec du football en métropole. La 6e journée de Ligue 1 commence la nuit prochaine, Léo.
En ouverture à 4h, heure de Nouméa, Auxerre affronte Brest. Puis à 6h, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais. Dans la nuit de demain à dimanche, 3 matchs sont au programme. Lens-Nice, Le Havre-Lille et Monaco-Montpellier. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, Lyon se déplace à Toulouse. Angers accueille Reims et les Nantais d'Antoine Comboiré affrontent Saint-Étienne. Enfin, l'Olympique de Marseille ira à Strasbourg lundi matin à 5h45 pour terminer cette sixième journée de Ligue 1.
Il y a aussi des matchs sur les pelouses des autres grands championnats européens.
On commence en Angleterre avec notamment de belles affiches entre Newcastle et Manchester City, Arsenal Leicester ou encore Manchester United Tottenham. En Espagne, derby de Madrid entre l'Atlético et le Real lundi matin à 6h. Avant ça, le Barça affronte Osasuna et pourrait prendre déjà 7 points d'avance sur le Real Madrid au classement. En Allemagne, duel entre les deux anciens champions, le Bayern Munich, champion de 2013 à 2023, reçoit le tenant du titre, le Bayer Leverkusen, dans la nuit de demain à dimanche. Ça se jouera donc dans la nuit.
Retour en métropole avec du rugby. La quatrième journée du top 14 commence demain soir avec Perpignan-Clermont.
Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 23h30, heure de Nouméa. Dans la nuit de demain à dimanche, l'Aviron Bayonnais reçoit Montpellier. Castres se déplace sur la pelouse de Lyon. Le Racing 92 affronte le Stade Rochelais. Et Toulon accueille le promu Vannes. Dimanche matin, la section paloise recevra le Stade Français. Et enfin, lundi matin, duel au sommet entre les deux premiers du championnat, le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègle.
Rugby toujours, c'est la dernière journée du rugby championship, tout peut encore arriver.
Au classement général, après 5 journées, l'Afrique du Sud est en tête avec 19 points devant l'Argentine, 14 points. La Nouvelle-Zélande complète le podium avec 11 points et puis l'Australie est bonne dernière avec seulement 5 points. Dans la nuit de demain à dimanche, l'Argentine va tout tenter pour battre l'Afrique du Sud, double champion du monde en titre. Si les Argentins l'emportent avec le bonus, ils pourront décrocher le premier titre dans la compétition. De son côté, la Nouvelle-Zélande peut monter sur la deuxième marche du podium en cas de victoire contre l'Australie demain à 18h05 et également de victoire de l'Afrique du Sud sur l'Argentine.
L'événement n'a pas manqué ce week-end, c'est l'UFC Paris, le rendez-vous du MMA France.
C'est la troisième édition de l'UFC Paris avec au programme 14 combats d'arts martiaux mixtes dont 9 Français qui vont combattre, notamment le très attendu Benoît Saint-Denis face au Brésilien Moïcano. BSD doit se reprendre après sa défaite en mars dernier contre Dustin Poirier. On retrouvera également Nassourdine Imavov, Kevin Jousset ou encore Morgane Charrière. La nuit du MMA à Paris, c'est à suivre dans la nuit de samedi à dimanche dès 3h, heure de Nouméa.
On passe au sport mécanique avec le Grand Prix moto d'Indonésie.
Le circuit de Mandalika qui réussit plutôt bien aux pilotes français. L'an dernier, Fabio Quartararo avait terminé quatrième au pied du podium. Donc, en 2022, il était même monté sur la deuxième marche du podium, juste devant un autre français, Johan Zarco, troisième. La deuxième séance d'essais libres donc, de cette année vient de commencer. La course sprint est prévue demain à 18h. Le départ de la course principale sera donné dimanche à 18h.
Sur les routes, le rallye du Chili, c'est ce week-end. 11e manche de la saison. WRC.
Le rallye du Chili qui apparaît seulement pour la troisième fois au calendrier WRC. Au programme, un peu plus de 300 km de spécial pour les 10 concurrents. On rappelle, l'an passé, c'est Ott Tanak qui s'était imposé devant Thierry Neuville et Elfyn Evans.
En karting, 2 Calédoniens participent au championnat de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
Lucas Padovez, robot 14 ans, et Raphaël Gilles, 10 ans, se sont envolés aujourd'hui pour Sydney. Les deux pilotes de l'association sportive de karting calédonien seront engagés dimanche sur la quatrième étape sur le circuit d'Eastern Creek. Lucas dans la catégorie Junior Light et Raphaël chez les rookies.
2 football et 2 matchs amicaux demain pour les sélections de Nouvelle-Calédonie.
Quatrième match amical pour les joueurs de Johan Sidaner qui affrontent demain Yengensport à 13h au stade New Madele. Je rappelle que le match se jouera à huis clos, sans supporters donc, et qu'il sera suivi d'une autre rencontre amicale à 15h entre la sélection U20, les moins de 20 ans, et l'AS Wetch. La sélection A qui reste sur 3 victoires face à Tigasport, Magenta et Horizon Sport. Un mot de foot toujours sur le territoire avec le trophée du Grand Nouméa. Ça joue en ce moment au PLGC. L'AS Gaïcha est opposé à l'AS Lossi. Le match a démarré à 18h. Demain, une seule rencontre au programme puisque Tigasport Magenta est reporté à la semaine prochaine. Demain, donc, c'est l'AS Mondor qui affrontera Melec à 15h45.
Le tennis sur le territoire avec plusieurs tournois multichances.
Chez les hommes, d'abord, l'AS 6e kilomètre et le TC Montcoffin organisent tous les deux leur tournoi pour adultes classés jusqu'à 15-4. Week-end chargé au tennis club Montcoffin puisqu'il y a aussi en parallèle les tournois jeunes, enfants, élite jeune et à venir.
On passe du tennis au tennis de table avec les championnats territoriaux de double demain.
Après une longue pause forcée, la Ligue calédonienne de tennis de table reprend ses activités, organise la première compétition de l'année, les championnats territoriaux de double avec 3 tableaux au programme, le double dame, le double homme et le double mixte. Ça se passe demain de 9h à 16h à la salle Noyant de Nouméa.
Et on termine avec un mot de squash.
Le Dumbéa Squash Club organise un Open Junior demain et dimanche de 13h à 18h, un tournoi réservé aux catégories des moins de 9 ans à celles des moins de 19 ans.
Merci Léo Fichou, 18h15. Nous arrivons au terme de ce journal, on va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagé.
Et la météo, c'est toujours avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, les nuages élevés recouvriront l'ensemble du territoire. Quelques averses aborderont marée et la façade est de la Grande Terre, notamment en seconde partie de nuit. Le vent de secteur est soufflera autour de 10 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra variable faible, hormis au débouché des vallées exposées, où il atteindra 10 à 15 nœuds. Les températures minimales évolueront peu, comprises entre 16 et 20 degrés dans l'intérieur, sur l'ouest, Lifou et marée, et entre 20 et 23 degrés ailleurs. Demain matin, le soleil l'emportera sous un voile de nuages élevés. Des nuages bas circuleront sur la façade est et quelques gouttes seront possibles sur le sud-est. L'ouest sera soumis à un régime de brise avec encore des accélérations à 10-15 nœuds au débouché de certaines vallées. Ailleurs, le vent de secteur est, généralement proche de 10 nœuds, soufflera autour de 15 nœuds vers Bélep et les pointes nord et sud de la Grande Terre.